et des matheux, puisque nous allons lire dans le livre des Nombres. Elle était facile. Livre des Nombres, chapitre 6, et nous lirons à partir du verset 22. Livre des Nombres, chapitre 6, à partir du verset 22. Ce n'est pas un livre dans lequel on va extrêmement souvent, le livre des Nombres. Mais il y a quelques perles qui valent la peine d'être découvertes et d'être méditées. Livre des Nombres, chapitre 6, verset 22. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et à ses fils et dis, vous bénirez ainsi les Israélites, vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et te garde. » Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites et je les bénirai. Amen. Et je les bénirai. Amen. Dieu va parler à Moïse et va lui donner cet ordre. Parle à Aaron et prononce des formules, une formule de bénédiction sur le peuple. Prononce une formule de bénédiction. C'est un ordre de Dieu. C'est quelque chose qui vient directement du cœur de Dieu. Et nous voyons que la bénédiction de Dieu vient du fait que Moïse, Aaron et ses fils vont demander la bénédiction sur le peuple. On voit bien au verset 27, « C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites et je les bénirai. » La bénédiction, c'est un terme qui est un petit peu galvaudé dans nos églises, dans nos milieux. Lorsque on dit, on a l'impression que c'est une formule quelque peu ritournelle, quelque peu rituelle, que le Seigneur te bénisse. Hein. C'est une formule finalement qu'on applique et qu'on peut appliquer à toutes les sauces. Et finalement, on lui fait perdre sa substance, on lui fait perdre de sa valeur comme beaucoup de mots. Jeudi soir, nous partagions à la réunion de prière le fait que nous étions frères et sœurs. Mais ce n'est pas quelque chose de vain, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas un concept théorique, mais c'est quelque chose qui est vécu, puisque nous faisons partie de la même famille, nous sommes des frères et des sœurs de sang, étant donné que nous sommes unis par le sang précieux de Jésus. Nous sommes ensemble, nous sommes une même famille, avec tous les avantages et tous les inconvénients que cela peut parfois avoir. Et le terme de bénédiction revêt une signification forte. Moïse va bénir le peuple, mais on sent le cœur et... Au travers, on sent la volonté là de Dieu de vouloir bénir son peuple. Mais pour bénir son peuple, Dieu a besoin de Moïse et d'Aaron. Et je crois que pour bénir ton frère, pour bénir ta sœur, pour bénir ta famille, mon frère, ma sœur, eh bien Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin finalement qu'on prononce des formules de bénédiction. Dieu a besoin que l'on ouvre notre cœur et qu'on puisse dire « Seigneur, bénis Solène, tu la visites, tu lui fais du bien, alléluia. Tu bénis Patrick et tu étends ta main sur lui. » Finalement. Dieu a besoin, Dieu aime qu'on se bénisse les uns les autres. Dieu veut que l'on se bénisse les uns les autres. Pour Dieu, les mots ont un sens. Dieu a un langage spirituel, langage de la Bible, langage qui nous enseigne. Et lorsque nous prononçons la bénédiction sur un homme, sur une femme, ça a du poids. Ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas une formule ritournelle, ce n'est pas une formule banale apprise par cœur. Mais lorsque... je bénis quelqu'un, eh bien je dis du bien, puisque c'est le terme littéral, c'est la définition littérale du mot bénir, je dis du bien de cette personne à Dieu. Et nous savons que si Dieu nous bénit, eh bien il dit du bien de nous, et un mot de Jésus suffit pour nous relever. Voyez-vous, le but de cette réflexion de ce matin, c'est de retrouver le sens véritable de la bénédiction, retrouver le sens véritable d'une vie avec Dieu qui soit béni, d'une communion fraternelle qu'il soit béni. Et le titre du message, on pourrait l'intituler « La bénédiction, mode d'emploi ». Première chose qu'il est nécessaire de voir, c'est qu'il est nécessaire de chercher la bénédiction de Dieu. Nous pouvons rechercher que le monde dise du bien de nous. Matthieu chapitre 16, verset 26. « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ?» On peut chercher... que le monde dise des choses bien sur nous. Et ce n'est pas forcément nuisible en soi. Vaut mieux que le monde dise des choses bien sur nous plutôt qu'il nous critique, hein, plutôt qu'il voit tous nos défauts, plutôt qu'il commente toutes nos mauvaises attitudes. Mais est-ce cela que nous devons rechercher en priorité? On pourrait traduire ce verset de la manière suivante. À quoi servirait-il à un homme d'avoir une bonne réputation dans le monde s'il perdait son âme, s'il avait une mauvaise réputation auprès du Maître, auprès du Seigneur, auprès de Jésus? Il est nécessaire de soigner notre témoignage. Bien sûr, nos actes parlent souvent plus que nos paroles. Nos actes parlent parfois plus que des versets dits ou prononcés. Et finalement, il est nécessaire d'être dans ce monde la queue et non la tête, d'être des hommes et des femmes qui vivons selon les principes de la parole de Dieu et au travers desquels les vérités évangéliques, les vérités bibliques transparaissent. Ne sabotons pas la parole de Dieu avec un mauvais témoignage. Mais vouloir vivre au travers du regard que l'on pose sur nous, vouloir vivre pour que le monde, finalement, pour avoir une bonne réputation aux yeux du monde, cela est extrêmement dangereux. Parce que nous savons que les sondages sont très versatiles. Nous savons qu'aujourd'hui, on porte un homme au nu. Demain, on le descendra et on le clouera au pilori. Regardez Jésus lorsqu'il rentre à Jérusalem. Hosanna ! Hosanna au fils de David ! Quelques temps après, crucifie. Crucifie. Mais l'amour de Jésus pour nous ne change pas. L'amour de Dieu pour nous ne change pas. Il est toujours le même. Il est long, il est large, il est haut, il est profond. Il est toujours le même. C'est dangereux également parce que c'était éphémère. La réputation d'un homme peut voler en éclats à cause d'une somme de détails. C'est dangereux parce que cela nous pousse au compromis. Souvenons-nous d'une chose. Ce que nous devons rechercher, c'est que Dieu dise du bien de nous. Et il est nécessaire, il est dans la volonté de Dieu de nous bénir. Dieu n'est pas un Dieu assis sur le rebord du monde qui regarde les hommes en train de se débattre. Dieu n'est pas un Dieu qui finalement dit peut-être que lui je le bénirai, peut-être que lui je ne le bénirai pas. Il a une sale tête ce matin. Ouh, il ne s'est pas rasé. Ouh là là. Non, la volonté de Dieu c'est de nous bénir, c'est de nous faire du bien. C'est que nos vies spirituelles soient éclatantes, c'est que nos vies dans le domaine matériel soient bénies également. C'est que nos couples fonctionnent bien. La volonté de Dieu pour ta vie, ce n'est pas que tu souffres. La volonté de Dieu pour ta vie, ce n'est pas que les larmes coulent en permanence. La volonté de Dieu pour ta vie, ce n'est pas que ton cœur reste et demeure brisé. Mais la volonté de Dieu pour la vie de chaque homme, la vie de chaque femme, c'est que sois heureux. Dans le livre de Job, il y a ce verset qui dit que l'homme n'est pas né pour souffrir. Et c'est très vrai. Dieu n'a pas voulu que nous naissions pour que nous souffrions. Mais nous savons que la volonté du Père, eh bien, elle est de nous bénir. Et il l'a prouvé de la plus belle manière qu'il soit, en offrant son Fils sur le bois de la croix. On remarque que dans la Bible, bien des hommes de Dieu ont voulu la bénédiction. Regardez le roi David. Il était dans son palais. Il était bien. Et puis, tout d'un coup, il se dit, mais l'Arche de l'Alliance, elle n'est pas à Jérusalem. L'Arche de l'Alliance, le symbole de la présence de Dieu. Et pourtant, David avait une notoriété. David avait la gloire. David avait tout ce qu'il lui fallait. Et là, David se dit non. Il faut ramener l'Arche de l'Alliance à Jérusalem, le plus près possible de moi. David savait que sa royauté, sans l'aide de Dieu, ne pourrait pas être aussi féconde que ce qu'il le souhaiterait. Où est l'arche dans ta vie? Où est l'arche? Tu oublies en route? L'as-tu laissé quelque part derrière toi? Dans un placard de ta chambre? Dans un placard de ton cœur? Où est l'arche dans ta vie? L'as-tu laissé à la porte de tes souffrances? L'as-tu laissé derrière toi parce qu'il était trop lourd à porter? Où est l'arche dans ta vie? Dieu voudrait tellement te bénir. Dieu voudrait tellement que te donner cette bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Mais finalement, où a-t-on mis l'arche? recherche-t-on encore la présence de Dieu? Prend-on le temps de rechercher la présence de Dieu? De chercher Dieu? Où est l'arche dans ta vie? Mais on va s'apercevoir que David va utiliser les mauvaises méthodes pour rapatrier l'arche, puisque il va prendre un attelage de bœufs pour transporter, rapatrier l'arche. Et là, il y a un homme, Uzza, qui va le payer au prix de sa vie. David ne va pas respecter la loi lévitique, ne va pas respecter les commandements de Dieu. Et cela nous montre une chose, c'est que Dieu accorde sa bénédiction, Dieu donne sa bénédiction dans la mesure où on marche avec lui, dans la mesure où on respecte le cadre qu'il nous a donné, les lois qu'il nous a communiquées. Dieu ne peut pas tout bénir. Regardez le sacrifice de Caïn. Il n'a pas été béni parce qu'il n'était pas dans les règles. Il fallait qu'il y ait aspersion de sang. Et puis on peut également penser que les motifs de Caïn n'étaient pas forcément les meilleurs. La bénédiction de Dieu, elle vient lorsque l'on marche avec lui, lorsqu'on avance avec lui. Alors me rétorquerez-vous, mais dans l'évangile il est marqué qu'il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. C'est vrai. Mais il bénit le juste d'une manière particulière aussi. Je le crois. Marche dans les voies du Seigneur. Reviens dans les voies du Seigneur. Avance dans les voies de ton Dieu. Et la bénédiction suivra. La bénédiction suivra. Jamais le juste n'a été délaissé, dira le psalmiste. Pourtant, il avait vieilli. Jamais il n'a vu le juste abandonné. La bénédiction de Dieu suivra. Recherchons la bénédiction de Dieu avant celle des hommes. C'est une priorité. C'est quelque chose qui doit être pour nous quelque chose de fort. Et au-delà de la bénédiction, c'est la personne, c'est l'auteur de la bénédiction qu'il nous faut rechercher. Que le nom du Seigneur soit béni. Deuxième chose, c'est que la Bible nous invite à bénir nous-mêmes. Et nous l'avons vu dans ce texte. C'est Dieu qui parle à Moïse et qui lui-même va parler à Aaron et à ses fils en disant « Bénissez le peuple ! Bénissez le peuple !» Premier épître de Pierre au chapitre 3 et au verset 9 dit « Ne rendez point le mal pour le mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. » Dans la culture orientale, la bénédiction initie et conclut les relations entre deux hommes. Et c'est quelque chose de très important. Les salutations en Orient ou dans le continent africain sont quelque chose d'extrêmement important et qui parfois peut être extrêmement long. Et la conclusion d'une conversation peut être également extrêmement longue parce que les salutations prennent du temps. C'est quelque chose d'important. Et on le voit notamment dans la Bible lorsque l'apôtre Paul écrit aux églises. Le soin que Paul apporte à l'introduction et à la conclusion de ses lettres. En introduction, voilà, moi, Paul, apôtre, il se définit, etc. Et puis ensuite, il parle de l'Église en général, il donne quelques salutations. Et puis à la fin, voilà, les frères qui sont avec moi vous saluent, saluez un tel, un tel, un tel. On voit que Paul prend énormément de soin aux introductions et aux conclusions. Moi, j'aime bien les conclusions des cultes. J'aime bien la fin d'une réunion. Alors, ne me dites pas, nous aussi. On a bien quand le prédicateur arrête de prêcher. Non, je trouve que c'est bien de voir, après un bon moment dans la présence de Dieu, après avoir partagé une nourriture ensemble, un bon repas ensemble, après s'être tenu devant la face du maître, eh bien, voir mon frère, voir ma sœur, et puis partager avec lui, échanger avec lui. C'est partie de la communion fraternelle. Et je prends l'image des lettres de Paul. Si Paul prend du soin à conclure ses lettres, prenons du soin pour conclure nos cultes. Partageons ensemble. Échangeons ensemble. Allons voir un frère, une sœur. Tu sais, que le Seigneur te bénisse. Bénissons-nous les uns les autres. Nous sommes appelés à nous bénir les uns les autres. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fasse grâce. Que le Seigneur te renouvelle. Alléluia. Que le Seigneur, vraiment, eh bien, te donne quelque chose de particulier. C'est un langage spirituel que Dieu aime et que Dieu entend, qui n'est pas le fruit d'une forme de liturgie, mais qui est le fruit d'un amour sincère, véritable et authentique, inspiré par le Saint-Esprit. Tournez-vous vers votre voisin et dites-lui que le Seigneur te bénisse de tout votre cœur. Que le Seigneur te bénisse. Hein? Que le Seigneur te fasse du bien. Hein? Que le Seigneur guérisse ton corps. Que le Seigneur te renouvelle. Mais c'est des termes que Jésus utilise, que l'apôtre nous appelle à utiliser. Faisons-nous du bien les uns les autres. Nous ne sommes pas appelés à nous maudire. Oh, t'as vu la robe de l'autre? T'as entendu la prière de la sœur untel? Elle était longue. T'as vu sa coiffure? Non, au contraire. Seigneur, eh bien, je veux bénir. Jésus nous demandera même de bénir nos ennemis, de prier pour eux. Et ça change des choses. Ça change des choses. À la fin du culte, allez voir quelqu'un que vous ne connaissez pas. Dis-lui, Seigneur, et dis-lui que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fasse du bien. Demandez-lui comment il s'appelle auparavant. Ça sera mieux. Dis-lui bonjour. Mais que le Seigneur te bénisse. Et je crois qu'il y a des liens qui se créent dans ces cas-là. C'est plus qu'une simple apparence. C'est plus, et je le redis, et je vous le redirai encore, qu'une forme de liturgie. Mais c'est réellement accomplir la volonté de Dieu. Et comme le dit le texte du livre de Nombres, marqué sur le peuple, marqué sur ton frère, marqué sur ta sœur, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. C'est beau ça, de se dire ça. Parce que Paul bénit Madeleine, eh bien, il marque le nom de Jésus sur sa vie. Lorsque M. Jantet bénit Véronique, il marque le nom de Jésus sur sa vie. C'est extraordinaire. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Dans la version, dans les Béatitudes, on connaît bien ce texte, lorsque Jésus dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les de bonheur, car ils hériteront la terre, etc. » Et on sait que le Seigneur va utiliser cette formule « heureux ». Littéralement, ça signifie « béni ». Bénis seront les pauvres en esprit. Bénis seront les affligés. Bénis sont les débonnaires. Bénis ceux qui ont faim. Et la traduction Chouraki, dans sa version quelque peu spéciale, traduit ce terme bénir par en avant. En avant. En avant les pauvres en esprit. En avant les affligés. En avant les débonnaires. C'est une belle traduction, ça. Simplement parce que la bénédiction nous fait aller en avant, nous pousse en avant. Lorsque je bénis Samuel, il va en avant avec le Seigneur. Lorsque je bénis Benjamin, il va en avant avec le Seigneur. En avant. Allez, t'es arrêté. Eh bien, je te bénis et tu vas en avant. Est-ce qu'on veut repartir, reprendre la marche? Peut-être que quelqu'un s'est arrêté à un moment ou un autre. Hein? Un petit peu comme Bartimée sur le bord du chemin, là. Cet homme ne peut pas bouger, il est aveugle. Et la voix du maître, il va entendre que Jésus passe. Jésus passe. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Cet homme arrêté depuis sa naissance. Et là, Jésus va relever cet homme. Si la bénédiction de Dieu vient sur ta vie, si tu demandes la bénédiction de Dieu sur ta vie, il est capable de te faire repartir à nouveau avec lui. Reprendre l'élan avec lui. Oh, que notre Dieu est bon. En avant. Donc quand votre frère vous dira « Que le Seigneur te bénisse », ça voudra dire « Allez, en avant, en avant ». Nous avons la vocation à nous bénir les uns les autres. Ce n'est pas une formule, je l'ai dit, mais c'est un langage spirituel. Et nous savons que l'Église est en bénédiction. Nous pouvons être en bénédiction les uns pour les autres. Mais nous savons également que l'Église, lorsqu'elle bénit la ville, lorsqu'elle prie pour la ville, eh bien, devient un sujet de bénédiction pour elle. Je crois que partout où un chrétien est placé, il est en bénédiction pour son entreprise, pour son patron, pour ses enfants, pour son collège, pour son lycée. Il est en bénédiction pour ceux qui l'entourent. Parce que nous prions pour les autorités et nous ne les maudissons pas, même lorsqu'elles augmentent les impôts ou alors qu'elles... Pas trop quand même. On est bien en France. Nous prions pour l'agent de police qui est en train de nous mettre un PV et nous le bénissons. Au sens vrai du terme, hein. Nous le bénissons, nous prions pour lui. Seigneur, que cette contravention serve à quelque chose, qu'il se convertisse. Nous prions pour notre entreprise, afin qu'économiquement elle tienne le coup. Nous prions pour nos autorités, afin qu'elles prennent les bonnes décisions. Et nous savons que lorsque l'Église sera enlevée, nous l'avons vu la dernière fois, eh bien ce sera le déferlement de l'Antichrist. L'Église bénit la cité, bénit le pays. Et nous sommes comme une digue qui est placée là, pour empêcher le déferlement du péché et de l'immoralité. c'est un rôle ô combien important. Et c'est ô combien primordial de le vivre dans notre cœur. On sait que les enfants également peuvent être en bénédiction pour les adultes. Vous n'êtes jamais arrivé qu'un enfant vous fasse du bien? Je viens d'une fois. J'en avais gros sur la patate. Et puis, je croisais un petit bout de chou. Elle devait avoir 6-7 ans. Et puis, cet enfant m'a dit « Oh, tu as l'air bien triste, Olivier. » Et alors, elle a fait quelque chose d'extraordinaire. Elle m'a tendu ses bras. Elle m'a dit « Je vais te faire un câlin. » Et cette gamine m'a fait un câlin, mais ça a valu toutes les prières du monde. Ça a valu toutes les prières du monde. Et je crois que le Seigneur s'est servi de cet enfant pour me bénir. Pour me bénir. Le jeune homme qui a apporté ses pains et ses poissons à Jésus. Jésus a béni les pains et les poissons et les a multipliés ensuite. Il a été en bénédiction pour une grande foule. On peut être en bénédiction les uns pour les autres. Et nous avons vocation à nous bénir les uns les autres, et non pas à nous maudire les uns les autres. Petite question un peu désagréable, mais il faut bien le quart d'heure. Nos paroles sont-elles plus des paroles qui bénissent, ou sont-elles plus des paroles qui maudissent? Des paroles qui autorisent à bénir notre frère, à bénir notre patron, à bénir nos employés, à bénir nos voisins? Ou bien, si Dieu les prenait au pied de la lettre, si Dieu les prenait au pied de la lettre, qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qui se passerait? Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, parfois, ça ne serait pas glorieux. Et je le confesse bien humblement. Appelé à bénir. Et troisième axe, nous sommes appelés à être, comme les Canadiens le disent, nous sommes appelés à être bénissants. C'est-à-dire que comme cette petite fille a été bénissante pour moi, eh bien, nous sommes appelés à l'être également. Et je vous propose de faire une lecture dans le livre de Job, au chapitre 29. Job, au chapitre 29. Et le verset 22, à partir du verset 22. Job est au cœur de la souffrance, au cœur de la tourmente, et il monologue, et il dira, il se souvient de sa gloire passée. Après mes paroles, on ne répliquait pas, et mes propos se répandaient sur eux tous. Il m'attendait comme on attend la pluie. Il ouvrait la bouche comme pour une ondée de printemps. Je leur souriais, mais ils n'y croyaient pas. Il ne pouvait faire disparaître la lumière de mon visage. Je choisissais d'aller avec eux et je m'asseyais à leur tête. Je demeurais comme un roi au milieu d'une troupe, comme celui qui console les affligés. Job se souvient du temps où il était bénissant, du temps où il pouvait encore faire du bien à ceux et celles qui venaient à sa rencontre. Et dans ce texte, on voit qu'il faisait du bien de manière très très simple finalement. Après mes paroles, on ne répliquait pas, et mes propos se répandaient sur eux tous. Ils m'attendaient, ou d'autres versions disent, ils les attendaient comme on attend la pluie. Simple parole. Vous savez, pour consoler un cœur, il ne faut pas forcément grand-chose. Hein? Parfois, juste être capable et de dire « je suis avec toi, hein? Je penserai à toi, je prierai pour toi ». Juste être capable de dire, je te comprends, je sais ce que tu traverses, je ne peux pas le traverser à ta place, mais j'essaie de marcher avec toi. Juste quelques versets dits à propos. C'est pas compliqué la communion fraternelle, c'est pas compliqué d'être bénissant, c'est quelque chose qui est à la portée de n'importe qui et surtout des enfants. La véritable communion fraternelle et le fait d'être véritablement bénissant, il faut avoir ce cœur d'enfant, cette simplicité, ce courage. Fuir les formules toutes faites, fuir les slogans évangéliques que l'on brandit. Mais tout simplement dire, tu as du prix à mes yeux. Tu comptes pour moi. Et je sais que le Seigneur t'aime encore plus que moi et qu'il va te bénir. Et Job disait, mes mots se répandaient et il les attendait. Il les attendait. Une simple parole peut faire beaucoup de mal, comme une simple parole peut faire beaucoup de bien. que nos mots. Prions le Seigneur de tout notre cœur. Seigneur, que mes mots, que mes paroles soient bénissantes. Que mes mots, que mes paroles soient bénissantes. Il ouvrait la bouche comme une ondée de printemps. Je leur souriais, mais ils n'y croyaient pas. Je leur souriais, mais ils n'y croyaient pas. Un sourire. Ah, oh, qu'est-ce que c'est chouette, un sourire. Qu'est-ce que ça fait du bien, un sourire. Et vous, je vous l'ai déjà dit, mais vous savez qu'il faut que un sourire mobilise moins de muscles qu'une tête de 6 pieds de long. C'est moins fatigant de sourire. Ça fatigue moins le corps. Un sourire. Je leur souriais. Vous connaissez ce texte qui est dans bien des commerces, qui dit qu'un sourire ne coûte rien, mais qu'il enrichit eh bien, celui qui le donne, et en fait, celui qui le reçoit, et qu'il n'appauvrit pas celui qui le donne. Hein? Je crois que c'est vrai. Je crois qu'un chrétien, un enfant de Dieu, eh bien, doit être capable. Et ça, tout le monde est capable de le faire. Il n'y a pas besoin de parler, il n'y a pas besoin d'être un grand orateur, il n'y a même pas besoin de connaître sa Bible. Parfois, il y a besoin de la lire. Pour y arriver. Il n'y a même pas besoin d'être proche de la personne. Une main sur l'épaule, restez reine. Et un sourire. Et un sourire. Que le Seigneur te bénisse. C'est bénissant, ça, une telle attitude. Et c'est à cela que l'on devient le sel de la terre, je crois. À partir du moment où on est capable de vivre ainsi. Il ne pouvait pas faire disparaître la lumière de mon visage. Même lorsque Job avait des difficultés, eh bien, jamais la lumière de son visage ne disparaissait. Alors on peut dire, oui, mais Job, là, elle a disparu, la lumière de ton visage. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Parce qu'au travers de son épreuve, combien d'hommes et combien de femmes Job a-t-il encouragé? Au travers de sa fidélité, au travers, finalement, parfois même de ses colères, de ses excès, peut-être. Mais combien de fois Job t'a-t-il encouragé? Et traverser les difficultés, tout simplement, même parfois avec quelques larmes, c'est encourager ceux qui vont les traverser après nous. Hein? Et la manière dont on traverse ces difficultés, finalement, est beaucoup plus importante que d'en sortir, que quand est-ce qu'on en sortira. C'est toute la différence entre franchir une difficulté, une épreuve en étant chrétien et sans l'être. Lorsque je franchis une difficulté sans Jésus, j'en ressors totalement brisé. Lorsque je passe une difficulté avec mon Dieu, parfois je souffre, parfois il y a des choses qui se grèvent dans mon cœur, qui sont poignardés au plus profond de moi. Mais j'en ressors guéri, et j'en ressors avec un enseignement, j'en ressors avec une parole. Puis, Job dit, je choisissais d'aller avec eux, et je m'asseyais à leur tête. Voilà, il s'assoit avec ceux qui souffrent. Il s'assoit avec ceux qui souffrent. Il passe du temps avec eux, et je demeurais comme un roi au milieu d'une troupe, comme celui qui console les affligés. Et à l'époque, Job était un homme qui avait une position sociale. Il était en quelque sorte un notable, quelqu'un de reconnu, mais il allait tout de même s'asseoir avec les affligés. Quelle belle image. Alors, pour conclure, je dirais que il est premièrement nécessaire que nous réalisions les mots que Dieu nous donne. Nos mots ont un sens. Je dis de temps en temps à ma femme, pèse tes mots. Pèse tes mots. Les mots que nous prononçons ont un sens. Un sens pour nous sur cette terre, mais un sens dans le cœur de Dieu. Et lorsque je bénis quelqu'un, et il ne faut pas que ça devienne du mysticisme, il ne faut pas qu'on se mette à bénir le pommier qui est dehors ou le caillou, etc. Restons quand même les pieds bien sur terre. Hein. On n'a pas vocation à bénir tout et n'importe quoi et à tirer la rigot. Mais lorsque je bénis un frère, lorsque je bénis une sœur, eh bien, je marque la personne de Jésus, la personne de Dieu sur sa vie. Je marque. Deuxième chose, vivons la bénédiction. Prononçons-la avec foi et recevons-la avec foi. Lorsque Samuel me dit que le Seigneur te bénisse, mais moi ça me fait du bien, je reçois avec foi et je crois que mon Dieu va me bénir. Je le crois, de la même manière que Samuel, lorsqu'il me le dit, il le pense aussi. Il le pense aussi. Troisièmement, permettons à Dieu de nous l'accorder en restant dans ses voies. Et on sait tous les commandements que Dieu a donnés et qui se terminaient ainsi, tu seras béni. Alors je t'accorderai ma bénédiction. Mais si tu ne les suis pas, alors eh bien, les conséquences seront là. Quatrièmement, apprenons à dire le bien. Apprenons à prononcer des bons mots, des mots positifs. J'aime beaucoup l'attitude des fils de Noé. Vous savez, Noé, à un moment donné, quand il est descendu, il a bu un peu trop de vin et il s'est enivré. Et il s'est endormi sur sa nudité. Il était nu. Et le premier de ses fils est allé, a vu la nudité de son père et puis est allé voir les autres. Il a dit, hé, papa est nu. Et les deux autres sont allés à sa rencontre et puis, en tournant le dos, ils l'ont revêtu d'un manteau. Qui est-ce qui a béni, qui est-ce qui a maudit? Parfois, bénir, c'est également se taire. C'est parfois cacher. C'est parfois ne rien dire. C'est parfois garder des choses pour nous. Apprenons à dire le bien. Lorsque je dis le bien, eh bien Dieu dit le bien. Et on sait qu'un mot de Jésus suffit. Et cinquièmement, veillons à être des hommes et des femmes bénissants au travers de nos paroles, nous l'avons souligné, mais au travers de nos sourires, au travers de nos actes, au travers d'un petit peu de compagnie, d'un verre de thé, des choses très très simples, mais qui feront véritablement eh bien, une communion fraternelle qui sera authentique, qui sera véritable et qui ne sera pas une philosophie, mais qui sera quelque chose de vécu. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour bien ta bénédiction et nous le savons, elle n'est suivie d'aucun chagrin.